Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site hommenouveau.fr.
Saint-Michel, défendez-nous dans le combat, soyez notre soutien contre les embûches et les perfidies du démon. Oui, vous êtes bien dans le Club des Hommes en Noir, épisode 2 de notre 6e saison. Très heureux de vous retrouver. Vous l'avez deviné, notre émission est consacrée à Saint-Michel, le chef de la milice céleste, et je crois qu'il y a beaucoup à dire. Avant de laisser, si vous voulez bien, la parole à mes invités, quelques avis pratiques, ceux que j'ai déjà donnés la semaine dernière en fin d'émission. Désormais, vous l'avez noté. En tous les cas, si vous ne l'avez pas noté, notez-le maintenant. Nos vidéos sont disponibles sur le site de L'Homme Nouveau et vous ne trouverez que des extraits sur notre chaîne YouTube. Pour visionner les clubs ou pour les écouter, il vous suffit d'inscrire votre adresse courriel dans la fenêtre qui s'ouvre quand vous allez sur le site de L'Homme Nouveau. C'est gratuit et cette petite manœuvre vous donnera l'accès gratuit aux vidéos du club et aux podcasts. Et en plus, vous serez tenu au courant à l'avance des thèmes de nos émissions, de nos invités et aussi des surprises que nous vous avons prévues pendant toute cette sixième saison. Voilà, donc merci d'avance de votre soutien. Sans transition, je présente, parce qu'ils sont en train de bouillir et d'attendre, je présente les membres du club présent, à savoir l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Merci à nouveau de votre présence du diocèse de Paris. L'abbé Grégoire Cellier de la Fraternité Saint-Pidis.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes.
Ce qui prouve notre ouverture d'esprit. Le père d'Anziac à ma droite.
Bonjour Philippe et bonjour à tous les amis du club des hommes en noir.
Comme il se doit, donc le père d'Anziac, chroniqueur religieux, à valeurs actuelles. Et j'ai pas mis le féminin exactement où il fallait. Et éditorialiste aussi à L'Homme Nouveau. Et puis notre ami est néanmoins le représentant du Laïcat en marche, Jean-Pierre Maugendre.
Bonjour à tous.
Président, c'est bien ça. Hein.
Alors je suis directeur général. C'est plus moi le président. Oui, mais c'était pas mal aussi.
Bon, alors,
c'est pas grave.
Directeur général de Renaissance catholique. Alors, ce 29 septembre est dans le calendrier de l'Église latine consacré à l'archange Saint-Michel. Et peut-être pour ouvrir la discussion, si vous le voulez bien, j'ai envie de vous demander ce qu'est exactement un archange. Puisque Saint-Michel est un archange. Qui se lance ?
Je veux bien.
L'abbé Cellier, comme d'habitude.
Donc, d'après ce que nous enseigne, à partir de la Sainte Écriture, Saint Grégoire le Grand et Saint Daniel et Aréopagite, il y a 9 chœurs des anges, n'est-ce pas, en trois hiérarchies successives, les anges, les archanges et les principautés. Ensuite, les puissances, les vertus, les dominations. Et enfin, les trônes, les chérubins et les séraphins. Donc, les trois archanges que nous connaissons dans la Sainte Écriture, Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, sont soit du deuxième chœur, donc ange, archange, principauté, ou bien le mot est pris dans un sens plus large comme chef des anges, donc des anges très haut placés dans la hiérarchie angélique. On peut avoir les deux approches. Et donc, effectivement, ce sont les trois. La Sainte Écriture ne nous enseigne pas. Il y a des livres, quand on tape sur Internet les anges, il y a plein de livres, avec des livres qui vous donnent des centaines de noms d'anges complètement inventés. Non, la Sainte Écriture nous donne les noms des anges que de trois qui ont rempli une mission importante, celle que nous connaissons le plus facilement, c'est Saint Gabriel pour la fête de l'Annonciation, évidemment, enfin pour les évangiles de l'Annonciation dans Saint Luc, qui annonce ça à la Bienheureuse Vierge Marie. Mais qui ont rempli une mission auprès d'eux. Donc, archange, soit deuxième hiérarchie, ou bien grand chef des anges et remplissant des missions extrêmement importantes pour Dieu.
Et pourquoi cette hiérarchie, en fait ? Pourquoi tous les anges ne sont-ils pas finalement
égaux ?
Égaux.
Et voilà, parce que
démocratiquement
comme,
égaux aussi.
Comme dit Saint Thomas, voilà, nous sommes l'espèce humaine, n'est-ce pas ? L'espèce humaine, il y a une seule espèce humaine avec des milliards de représentants. Chaque ange, nous dit Saint Thomas, est une espèce à lui-même. C'est-à-dire qu'il a autant de qualités que l'ensemble de l'humanité. Si vous voulez. Et donc, effectivement, de toute façon, ils sont tous à des niveaux différents. À l'intérieur des hiérarchies, ils sont tous à des niveaux d'être différents. C'est une magnifique fresque de tous les niveaux d'être spirituel que Dieu a mis en place pour justement manifester sa puissance, sa bonté, etc., à travers ce ruissellement d'êtres différents et qui sont regroupés en plus en des hiérarchies pour bien montrer effectivement que, comme dit saint Thomas à partir d'Aristote, le plus petit, le plus grand du bas, le plus haut du bas touche le plus petit du haut, etc., et fait une gradation qui s'élève vers Dieu sans jamais atteindre Dieu, bien sûr.
Il me semble qu'il y a une valeur pédagogique aussi dans cette dimension hiérarchique par rapport à l'espèce angélique, on va dire en règle générale. C'est que pour ceux qui nous regardent, de bien considérer que quand on s'approche de Dieu, déjà on ne s'approche pas de Dieu de plein pied, il y a différents degrés, même Sainte Thérèse d'Avila parle des différentes demeures pour s'approcher du Seigneur, pour toucher d'une façon plus fine la présence divine. Et puis, en fin de compte, notre mentalité, la mentalité plutôt moderne, justement a un peu cette notion d'égalité comme un mantra. En fait, l'Église, ce n'est pas du tout ça, ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne à être bien ce qu'on est, comme dit saint François de Sales. Chacun est à sa place. Et je veux dire, il n'y a pas de honte à être en bas de la hiérarchie si c'est notre place. Le but, c'est d'être bien ce que l'on est, ce que le bon Dieu veut pour nous. Et finalement, le chérubin, le séraphin, l'ouvrier dans son entreprise, le chef du 440, la mère de famille ou l'enfant, chacun à sa place pour correspondre d'une façon plénière à sa vocation et rentrer dans le mystère de l'amitié avec Dieu. Et finalement, on doit s'en contenter. Le but, ce n'est pas d'être plus. Le but, c'est d'être bien ce qu'on est.
En même temps, Dieu s'est fait chair, il s'est incarné, il est devenu homme parmi les hommes, et il a revêtu ce qu'est chacun des hommes. Donc,
oui, mais
il a brisé en quelque sorte cette distance entre Dieu et les hommes. Je vois que l'abbé Guelfucci...
Le Christ n'a pas supprimé dans l'incarnation la hiérarchie ou les différents degrés dans la nature humaine de responsabilité, de place.
C'est ça, comme ce que je voulais dire aux apôtres. Je vous m'appelais Seigneur et Maître et vous avez raison car je le suis.
Exactement.
Il leur lave les pieds, mais il dit « Vous avez raison car je le suis ».
Cette distinction est aussi liée à des degrés de connaissance et des missions. C'est la même chose.
Cette distinction laquelle, pardon
Parmi les anges. Et comme parmi les hommes, il y a des hommes qui, par leur patience et leur persévérance, auront telle tâche. D'autres auront un charisme de commandement. D'autres auront un charisme de travail assidu. Et chez les anges, donc, ce qui est le plus connu, c'est les séraphins et les chérubins sont vraiment dans une contemplation de Dieu qui fait que, comme le dit la scolastique, ils donnent une partie de leur connaissance aux autres anges. Ils les illuminent. Les anges n'ont pas de corps, n'ont pas de bouche. Ils communiquent entre eux parfaitement mieux qu'avec un langage humain. Et ils transmettent la connaissance qu'ils ont de Dieu quand elle est supérieure. Ils enrichissent c'est la connaissance des autres anges par une illumination, par un enseignement presque. Et donc, il y a une querelle pour savoir si Saint-Michel Archange est un archange au sens de ceux qui sont au-dessus des anges comme des anges gardiens ou des anges qui sont dans la multitude que Dieu a créée, puisque les anges sont extrêmement nombreux, ils sont des myriades. Ou alors, est-ce que c'est un séraphin, puisqu'il y a certaines traditions disent que c'est un séraphin. Et en tout cas, ce qui est certain dans la Sainte Écriture, c'est qu'on parle des sept esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et c'est saint Jean qui le reprend, mais il y a aussi Gabriel, l'archange Gabriel le dit aussi, il a un des sept esprits devant le trône de Dieu. Et vous avez dans le livre de Daniel la désignation de Saint-Michel comme le protecteur d'Israël même, du peuple hébreu.
Alors, on va revenir à Saint-Michel dans un instant. Vous venez de dire que les anges n'ont pas de corps. Moi, je pensais que les anges avaient des ailes avec des cheveux longs.
Non, c'est quand ils agissent, surtout auprès des hommes, ils font un corps d'emprunt, ils font une apparence, un hologramme, si vous voulez.
Ah, déjà, et, ils sont très en avance
et comment,
avant M. Mélenchon.
Tout à fait. Et donc, et quand bien même ils apparaissent, leur corps est creux. Mais vous avez dans le livre de Tobie,
c'est ce que j'allais vous dire,
l'archange Raphaël, à la fin du livre de Tobie, c'est très délicat de la part de l'auteur sacré. Vous avez Raphaël qui commence à monter. Tout le monde s'aplatit de terreur parce qu'ils ont vu un ange et qui voit un ange va peut-être voir Dieu enfin, face à face dans le jugement particulier. Hein, on va mourir. Eh bien, avant de partir, l'archange Raphaël dit « Quand je mangeais avec toi, il dit Tobie Junior, je faisais semblant. » Et cette phrase semble anodine, mais c'est aussi pour qu'on ne considère pas que les anges aient besoin de manger.
Et qu'ils aient vraiment un corps. Pardon Jean-Pierre, je ne vous ai pas donné la parole, c'est fait
maintenant. Mais ça n'est pas grave. Juste peut-être pour prolonger ce qu'ont dit le père d'Anziac et le chanoine Guelfucci, je crois qu'on peut dire traditionnellement, voilà, les neuf cœurs des anges, il y a un ensemble de... les séraphins, les chérubins, les trônes, ils sont plus spécifiquement orientés à la contemplation de Dieu. Voilà, ils contemplent Dieu, ils adorent Dieu. Les dominations, les vertus et les puissances, elles sont chargées du gouvernement du monde. Et ceux qui nous intéressent, a priori, et ceux avec lesquels nous avons le plus de contact, dont les principautés, les archanges et les anges, ils exécutent les ordres de Dieu. C'est pour ça que généralement, ceux qui interviennent dans la vie des hommes, ce sont des archanges ou des anges, parce qu'ils exécutent les ordres de Dieu auprès des hommes.
Je rappelle donc que vous êtes en train de suivre le club des hommes en noir, qui nous parlons, ou nous essayons de parler de...
Alors, donc juste pour préciser, effectivement, les anges sont des purs esprits. Les anges sont des purs esprits.
Ah oui, nous ne sommes pas de corps.
Voilà, des esprits. Nous sommes des esprits de corporels, donc insérés dans un corps. Eux, ce sont de purs esprits, donc qui, en ce sens-là, ressemblent à Dieu encore plus que nous. Donc ça, c'est un point.
Et puissance spirituelle.
Voilà.
Purs esprits et puissance spirituelle, c'est les deux.
Voilà. Alors, donc, Saint Michel, hein, dont le nom signifie qui est comme Dieu, hein, donc est celui qui a rallié les anges, les bons anges, au moment où les anges devaient se déterminer, donc juste après leur création, ils devaient se déterminer pour obéir à Dieu, à ce que Dieu leur proposait avec un certain mystère. Il y avait un certain mystère. Donc naturellement, ils connaissent Dieu, ils connaissent sa puissance, etc. Mais ils avaient accepté une certaine révélation divine et à la suivre. Et donc, apparemment, de ce que si nous comprenons bien la Sainte Écriture, le plus élevé des anges, le plus beau des anges, a dit « Non, moi, je ne servirai pas Dieu, parce que je suis suffisamment excellent pour, je dirais, trouver mon bonheur en moi-même. » Et donc, Saint Michel réagit, et donc lance un cri dans le ciel, au milieu des anges, en disant « Qui est comme Dieu, qui peut dire qu'il n'obéira pas à Dieu ?» Et donc, il rallie, effectivement, les bons anges au service de Dieu. Et donc, c'est le moment de la séparation, les anges qui suivent Lucifer ou Satan, l'ennemi de Dieu, qui a dit « je ne servirai pas », deviennent des démons et sont précipités en enfer. Et au contraire, les bons anges qui suivent Saint Michel en disant « nous devons obéir à Dieu », eh bien, entrent dans le paradis.
Vous avez dit, le Saint Michel crie, mais comment
un
pur esprit peut-il crier ?
Voilà, donc comme dit Monsieur l'abbé Guelfucci, c'est une illumination. Donc, il lance, si vous voulez, une illumination pour ceux qui veulent bien la recevoir. Lucifer, l'ennemi, donc lui, lance une illumination en disant « Je ne veux pas servir Dieu, que ceux qui veulent ne pas servir Dieu avec moi me suivent. » Et encore une fois, il y a un langage parmi les anges, mais ce n'est pas un langage articulé, c'est un langage purement spirituel, mais il communique bien mieux que nous. Donc, effectivement, dans ce monde angélique, dans ce monde purement spirituel où ils se voient, où ils se connaissent, n'est-ce pas ? Effectivement, il y a ceux qui disent « Non, nous voulons obéir à Dieu. » Évidemment, il faut obéir à Dieu, le Tout-Puissant, même si nous ne comprenons pas pour le moment ce qu'il nous propose comme révélation. Et au contraire, ceux qui disent « Non, 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 moi, je veux croire qu'en moi-même, et donc je n'obéirai pas à Dieu. »
Et ce choix est fait une fois pour toutes ?
Voilà, c'est
sont de pures intelligences.
Une précision, c'est que pour ceux qui nous regardent, qui comprennent bien que nous sommes la religion de l'amour, Et tout amour nécessite une liberté, c'est-à-dire un choix libre, décidé avec la volonté et l'intelligence. Pour les hommes, je veux dire, le bon Dieu nous fait la grâce, en tout cas lié à notre nature humaine, nous avons toute notre vie terrestre pour que ce choix s'affine, s'affirme, et durant la vie terrestre, nous pouvons acquérir des mérites ou des démérites, et à la fin, on va peser ça sur la balance de notre âme. D'ailleurs, c'est Saint-Michel qui sera là
le
porte-balance. Pour les anges, ça s'est décidé en une seule fois, en un choix, puisque leur intelligence fonctionne sur des modalités différentes de la nature humaine, c'est-à-dire plus sublime,
et donc plus immédiat,
tout à fait, voilà. Et Lucifer, pour bien le rappeler, je sais que j'enfonce les portes ouvertes, mais Lucifer, c'est le porteur de lumière, c'est celui qui était le plus beau des anges. Et donc, nous avons dit tout à l'heure que les anges souvent étaient spécifiés, caractérisés par leur nom, voilà, donc Michael, qui est comme Dieu, Lucifer, porteur de lumière. Nous avons là deux images significatives, à la fois évidemment de l'humilité, hein, c'est Saint-Michel, et hélas de l'orgueil, en fait, de rempli de lui-même. Lucifer, qui est porté la lumière, a cru à force de la porter qu'il était lui-même la lumière. Voilà.
En même temps, il n'était pas déterminé à faire ce choix.
Jamais. Non, personne n'est déterminé. Exactement. Non,
c'était dans le libre arbitre. Voilà, on l'appelle aussi l'étoile du matin parce qu'il avait la science matutinale du début de la création, qui est la création des êtres invisibles qui sont les anges. Et le nom d'étoile du matin a été transféré à la Vierge Marie, ce qui est magnifique. Mmh. Et lui, il a perdu ce titre.
Transfert d'appellation.
La science matutinale des anges, lui, il l'avait de manière toute particulière, et il était l'astre du matin de la création.
Une autre appellation qui est attribuée, enfin je dis une autre appellation, vous me corrigerez peut-être, mais qui est attribuée à Saint-Michel, c'est chef de la milice céleste. Alors pourquoi est-il le chef de la milice céleste ?
Alors parce qu'il a rallié...
J'ai l'impression d'avoir posé une question, il ne fallait
parce
pas. Hein,
parce qu'il a rallié effectivement les bons anges, mais donc c'est une expression qui parcourt tout l'Ancien Testament, Deus Sabaoth, le Dieu des armées célestes. Hein. Et donc en fait, cette expression est prise de notre pratique, car lorsque le chef, le roi, le président, n'est-ce pas, paraît, il est entouré de soldats, et lorsqu'il reçoit ses hôtes... Le président de la République vient de recevoir un autre prestigieux. Il est entouré à l'Élysée de soldats qui accueillent pour manifester la puissance et la gloire, si vous voulez. Et donc, le Deus Sabaoth, le Dieu des armées célestes, c'est-à-dire, évidemment, Dieu n'a pas besoin des anges pour être glorieux, mais pour nous, c'est plus facile de comprendre s'il a des millions et des milliards d'êtres spirituels puissants qui l'accompagnent, alors c'est un grand Dieu et un Dieu puissant. Et donc, Saint-Michel, étant donné que par son acte, à la fois de suivre la volonté de Dieu, mais surtout de rallier les autres, d'appeler les autres à se rallier à Dieu, eh bien, il a été fait chef d'un milice céleste à la place donc, de Lucifer, qui l'était par la nature, mais qui n'a pas été par la grâce, puisqu'il a refusé la grâce. Et donc, il commande cette armée céleste, c'est-à-dire qu'il représente la puissance et la majesté de Dieu.
Oui, mais je préciserai, je souscris tout à fait. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire. Mais il y a le mot milice. Militia, c'est dans sa formule latine, c'est le service militaire. Et vous avez le non serviam de Lucifer. Je ne servirai pas. Et vous avez finalement Saint-Michel qui est à la tête de la milice céleste. Alors évidemment, le terme milice dans l'histoire de France la plus récente renvoie donc à la période de la collaboration. Néanmoins, le mot milice dans son acception originelle, c'est vraiment le service des armes. Et donc, en effet, le chef d'État et le chef des armées, le chef suprême des armées, Dieu, Deus Sabaoth, a une armée céleste et des myriades d'anges qui attestent sa puissance, sa toute-puissance sur l'univers. Mais là, on a, à travers Saint-Michel, le chef de ceux qui servent Dieu par les armes. Donc, vous avez c'est comme un négatif photographique par rapport au non-serviam du diable, de Lucifer. Vous avez le serviam de Saint-Michel qui, donc, atteste que l'on peut servir Dieu par les armes de la foi, les armes du, en fait, du combat spirituel, mais on y reviendra sûrement.
Oui, alors très bien, mais alors comment se fait-il qu'un dieu de paix, un dieu d'amour ait besoin du soutien, enfin, le terme n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas, a besoin de s'entourer d'une milice, d'une armée, fût-elle céleste.
Non, mais c'est par rapport à nous, hein. Dieu n'a pas besoin de la création. Dieu est totalement.
Oui, mais c'est extrêmement étrange, en tout cas pour nos mentalités contemporaines, et le Père Danziècle l'a un peu souligné, c'est que tout ce qui fait référence à un langage militaire. Comme milice, pas simplement parce que ça peut réveiller des souvenirs liés à la Seconde Guerre mondiale, mais tout simplement parce que ça, c'est lié à un langage militaire, ça semble s'opposer dans nos mentalités, alors qu'on prêche un dieu d'amour, un dieu de paix, que le catholicisme essaye aujourd'hui d'instaurer la paix dans le monde. Peut-être plus qu'au moment des croisades, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, l'abbé Gaël Fouchy?
Ça vient de la volonté de Dieu de donner le libre arbitre à ses créatures. Et ces créatures, lorsqu'elles choisissent le mal, il faut qu'elles soient combattues. Ce n'est pas parce que vous avez une police qu'il y aura nécessairement des meurtres et des vols. Et donc, mais si dans une cité très apaisée, la police n'aura pas grand-chose à faire. Mais elle est là à cause du mal et du péché. Et donc, lorsque Dieu donne ce libre arbitre à ses créatures, il va laisser aussi ses créatures, celles qui choisissent l'amour, défendre l'amour auprès de lui contre ceux qui veulent la haine et la jalousie. Dieu pourrait être tout seul à combattre et laisser toutes les créatures bonnes regarder et être spectatrices. Non, il souhaite que tout le monde participe à ce combat. Vous voyez, on dit de la Vierge Marie qu'elle est belle comme une armée rangée en bataille.
Oui, mais c'est justement...
Mais parce que c'est un combat spirituel, c'est pas un combat...
Qui ont peut-être été justes et vrais...
Oui, mais c'est à cause de la méchanceté. Non, de nos jours, vous voyez, par exemple, nous avons une guerre en Europe. Il y a les méchants et les gentils. Alors, suivant le parti qu'on choisit.
Oui,
alors
vous me direz qu'ils sont les méchants et qu'ils sont
les gentils. Même de manière contemporaine, actuellement, on dit, oui, il y a les méchants et les gentils. Donc, on accepte quand même qu'il y ait cette possibilité, qu'il y ait des gentils qui attaquent avec des armes, les méchants qui attaquent avec des armes. Et là, ces combats-là ne sont pas des combats, matériels. C'est un combat spirituel. C'est comme dans une famille. Si vous avez les parents qui sont en train de se disputer, de se quereller, ben vous avez des enfants qui vont essayer de les apaiser, essayer de les réconcilier, un frère, une sœur, une tante, un oncle. Et c'est un combat spirituel. On n'est pas là à se... Parfois, on se frappe, mais là, en l'occurrence, si on est dans des arguments... De paix, de réconciliation, Dieu veut qu'il y ait ce combat spirituel entre les êtres.
Mais ce que vous dites, Philippe Maxence, je crois que c'est assez significatif de l'atmosphère actuelle dans notre société, dans nos sociétés, justement un peu paix, miel, joie, fleurs, mais dont on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément plus de paix sociale, de relations apaisées, etc. On parle bien de la franche orange mécanique, donc je crois que...
Milieux.
Il me semble en effet qu'autrefois, et il était coutumier dans les villages, dans les écoles, etc., d'assister à des cérémonies militaires parce qu'il y avait plus de régiments, etc. Il y avait même des liturgies militaires, hein, voilà, comme il y avait la liturgie royale, etc. Donc ça s'encastrait dans une harmonie sociale, à mon sens, assez avantageuse d'un point de vue pédagogique pour l'éducation des volontés, des intelligences et des cœurs. Dans la prière à Saint-Michel-Archange, on a cette première sentence « Défendez-nous dans le combat ». Donc nous avons évidemment, c'est ce qu'a dit l'abbé Gaël Fouchy, nous avons besoin pour accéder au ciel, de forces qui viennent nous soutenir parce que nous, tout seuls, nous sommes, sinon gravement en danger, en tout cas très diminués. Donc nous avons besoin, au contraire, de ces anges qui viennent nous protéger, comme on a besoin certaines fois d'un garde du corps, où les auteurs spirituels nous enseignent d'avoir la garde du cœur. J'allais dire que les anges sont là comme des gardes des gardiens de notre âme, en fait. Ils nous protègent véritablement à essayer de mener droitement notre vie pour obtenir le ciel, parce que le ciel n'est pas, ne s'acquiert pas par une promenade de santé. Mon voisin à droite dit souvent, il ne suffit pas de s'inscrire. Ben voilà, c'est ça, il ne suffit pas de s'inscrire pour aller au ciel, il faut se battre, je l'ai dit tout à l'heure, il faut acquérir des mérites, et ces mérites, nous pourrons les acquérir d'une façon profitable en nous appuyant sur les aides et les soutiens que le bon Dieu nous donne dans sa sainte providence. Et ce sont les anges au premier chef, et au premier chef de ceci, Saint Michel Archange.
Avec, je crois aussi, vous avez eu raison de l'évoquer, même si le premier combat est un combat spirituel, je crois que c'est André Charlier qui dit que voilà, les batailles les plus féroces, ce sont les batailles spirituelles. Mais les anges sont des purs esprits. Nous ne sommes pas des purs esprits. C'est-à-dire que nous sommes incarnés. Nous sommes incarnés dans une réalité. Il y a un combat spirituel à mener, bien sûr, mais il peut y avoir aussi des combats extrêmement matériels, extrêmement prosaïques pour la défense de sa famille, de son territoire, de ce que l'on est. Et justement, ce qu'il y a aussi, je trouve, un petit peu d'extraordinaire et un peu de miraculeux, c'est que à certains moments dans l'histoire de l'humanité, eh bien, la Providence elle-même est intervenue par des anges dans le cours des événements ô combien naturels. L'exemple que l'on en a, bien sûr, et c'est le lien avec Saint Michel, qui apparaît à Sainte-Jeanne d'Arc, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très mystérieux et que nos téléspectateurs doivent bien comprendre, c'est que les anges, ce sont de purs esprits, mais ils ne sont pas détachés des réalités contingentes auxquelles nous sommes soumis. Il y a d'abord nos anges gardiens, et puis ensuite, l'exemple que je viens donner, où parfois, Dieu permet eh bien, que les anges, le surnaturel, interviennent directement dans la vie même des nations. Alors c'est rarissime, c'est même exceptionnel, mais c'est une réalité.
Pour Saint Michel, c'est lui qui va dire à Sainte Jeanne d'Arc la formule que beaucoup connaissent, il y a grande pitié en royaume de France. C'est lui qui l'exprime, qui la labialise à Sainte Jeanne d'Arc.
Alors pas... si vous voulez bien, on va reparler dans quelques instants des liens entre Saint-Michel et la France, plus spécifiquement, peut-être au-delà même de Sainte-Jeanne d'Arc, tout en revenant sur Sainte-Jeanne d'Arc, envers laquelle nous avons beaucoup de vénération, bien évidemment. Ce que j'aimerais vous demander avant, c'est quel est le degré, la mesure, si je puis dire, de la dévotion que l'on peut avoir envers Saint-Michel. Il existe des litanies, il existe un chapelet de Saint-Michel, il existe des médailles. Une médaille de Saint-Michel, est-ce que tout ça c'est...
Il y avait les prières après la messe.
Il y a les prières après la messe. Oui. Est-ce que tout ça c'est...
Ce sont des amis de Dieu. Les anges sont des amis de Dieu et nous pouvons recourir aux amis de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, les saints apôtres, tous les saints. Et les anges sont des saints. Ils font partie de la cour céleste. Et donc, nous nous recourons aux amis de Dieu pour qu'ils portent notre prière vers Dieu, pour qu'ils nous donnent, nous transmettent les secours divins. Et donc, il est tout à fait légitime de prier les anges comme nous prions les saints, comme nous prions la bienheureuse Vierge Marie. Comme le rappelle le Concile de Trente, nous n'offrons pas la messe à Saint-Pierre ou à Saint-Paul, mais nous offrons la messe à Dieu le Père par l'intercession de Saint-Paul ou de Saint-Pierre qui viendront nous aider en tant que le bon Dieu le leur permettra. Mais oui, s'adresser à Saint-Michel, c'est tout à fait légitime.
Je pourrais citer les litanies de Saint-Michel, les médailles de Saint-Michel.
Tout ce qui est approuvé et catholique.
C'est ça que j'aimerais savoir, est-ce que c'est approuvé tout ça, Abbé Guelfucci.
C'est en 1751 qu'une moniale portugaise, une carmélite, Antonia de Astonaco, qui a eu les litanies de Saint-Michel Archange et qui ont été approuvées par l'Église. Donc, vous allez me dire, là, c'est récent, mais vous avez les apparitions du mont Gargano, c'est le 5e siècle. Et puis, vous avez la liturgie. On oublie qu'au cœur même de la messe, qui est la prière la plus officielle de l'Église, vous avez l'évocation des chœurs angéliques à la préface.
Oui, mais là, justement, je me pose pas
de questions. Et là, ce n'est pas une prière privée.
Oui, oui, bien sûr.
Donc, l'Église, non seulement, elle pousse à prier les anges de manière privée, avec une des rares prières universelles. Vous avez le « Je crois en Dieu », le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », le « Gloire au Père ». Et dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez « Angele Dei », « Ange de Dieu », à qui j'ai été confié par la Providence divine. Et c'est une prière qu'on devrait connaître. Angele Dei, la prière à l'ange gardien. Mais donc, je reviens à la préface. Le Sanctus, c'est ce que Ézéchiel a entendu, Daniel a entendu, et c'est le cœur des anges. Et vous avez dans certaines préfaces, vous avez les noms des cœurs angéliques, tels que saint Paul nous en parle dans ses épîtres.
Il y a aussi dans la messe la bénédiction de l'encens avec une évocation des anges, etc. Ce qui est de Saint-Michel, en l'occurrence. Mais oui, j'entends bien. Mais justement, peut-être moi, je nuancerai un petit peu, parce que M. l'abbé Sellier a dit que ce sont les amis de Dieu, donc on peut évidemment s'appuyer sur eux. Je n'en doute pas. Néanmoins, dans les amis de Dieu, il y a des catégories. Il y a ceux qui sont plus proches de Dieu et ceux qui sont peut-être un peu plus éloignés. On parlait de hiérarchie en introduction de nos propos. Plus on est proche de Dieu, j'allais dire, moins peut-être il s'agira de taper derrière le dos, derrière l'aile, comme ça, d'une façon un petit peu cavalière. Et je crois que l'Église, sous ce registre-là, a fait bien aussi de peut-être de caractériser cette dévotion aux anges, de la circonscrire, de la protéger. On ne peut pas invoquer, par exemple, notamment dans la question fameuse de pour chasser les démons, on ne peut pas invoquer comme ça Saint-Michel-Archange avec la même autorité en fonction de la responsabilité qu'on a reçue de l'Église elle-même, qui est sainte, catholique, apostolique et romaine. Donc, je crois que ça dit quelque chose quand même de cette façon aussi d'appréhender la grandeur d'un archange, en l'occurrence Saint-Michel, qu'on fera toujours bien d'invoquer à travers les litanies, à travers une prière personnelle, à travers la messe du premier mardi du mois qui a été introduite par Léon XIII pour la paix, dans le royaume de France. Mais néanmoins, je crois qu'il est bon de noter aussi que des invocations plus solennelles de Saint-Michel-Archange peuvent être réservées dans le cadre notamment des exorcismes, dans ce cas-là, aux autorités compétentes. Voilà. Il y a certains... Et auprès des délégués. Que les fidèles qui nous regardent ne soient pas offusqués, mais chez certains d'entre vous, il peut y avoir peut-être aussi une sorte de fascination pour les anges et une sorte de volonté d'aller capter chez eux le maximum de bienfaits spirituels. Attention, voilà, si vous voulez de puissance, si vous voulez en bénéficier, il faut toujours passer par le rail de l'autorité telle que l'Église nous le transmet. Et donc, on ne s'approche pas, j'allais dire, voilà, de Saint-Michel comme on pourrait s'approcher peut-être avec une certaine désinvolture spirituelle de Sainte-Gudule ou de Sainte, je ne sais pas qui.
Allez, on continue ce club des hommes en noir, parce que le temps file. Pour évoquer peut-être Jean-Pierre les liens entre Saint-Michel et puis notre France, peut-être au-delà de Jeanne d'Arc ou peut-être.
Alors je crois les liens entre Saint-Michel et la France, moi je vois trois éléments. Le premier élément, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en filigrane, et effectivement il apparaît à Sainte-Jeanne d'Arc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe un ordre de Saint-Michel qui a été créé par Louis XI, donc en 1469. Donc, c'est un ordre tout à fait officiel. Il y a 30 membres. Et en fait, l'idée étant...
Et c'est un ordre qui existe encore ?
Non, il a été supprimé à la Révolution, rétabli par Louis XVIII, et puis ça a disparu. L'idée étant de faire pièce à l'ordre de la Toison d'Or, donc qui était à la maison de Bourgogne. Donc, il y avait un vrai dessein politique, mais qui aussi était sous-tendu par une vraie piété du roi vis-à-vis de Saint-Michel. Et puis je crois également, troisième anecdote, troisième lien entre le spirituel et le temporel entre Saint-Michel et la France, et puis d'une certaine manière même le monde entier, parce que ça a été étendu au monde entier, c'est le 29 septembre, donc, et la fête liturgique liturgique de Saint-Michel, et c'est aussi la fête des parachutistes. Voilà, Saint-Michel est patron des parachutistes. Alors bien sûr, depuis une époque récente, parce que les parachutistes, ça n'existe pas depuis des siècles. Alors quelle est l'histoire là pour nos téléspectateurs? Deux jours avant le débarquement du 6 juin 1944, l'aumônier du 2e SAS, donc spécial Air Service, donc ce sont des Français, mais qui sont dans ces unités, qui sont des unités britanniques, confie à chacun des membres de cette unité une médaille de Saint-Michel. On rejoint ce que l'on vient de dire à l'instant. Sur une face, il y a Saint-Michel, et sur l'autre face, il y a Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà, donc il leur donne ça le 4 juin. Le 6 juin, c'est le débarquement. Cette idée ensuite sera reprise quelques mois plus tard par le père Gégaud, qui est aumônier du 1er RCP, le régiment de chasseurs parachutistes. Et puis, ce sera étendu, développé en février 1945 par une proposition de l'aumônier des troupes de l'air, qui est un père Valin de la Vessière, et qui demande à ce que, officiellement, Saint-Michel soit reconnu comme le patron des parachutistes.
Est-ce qu'il y a le cas ?
Est-ce qu'il va se faire ? Et l'étape un peu majeure, la première cérémonie officielle, c'est le 20 septembre 1949, donc dans la cathédrale d'Hanoï. Il y a une messe qui est célébrée en présence de trois bataillons de parachutistes, le premier BEP, le bataillon étranger parachutiste, le premier RCP, régiment de chasseurs parachutistes, et puis un régiment de parachutistes coloniaux, et où Saint-Michel est officiellement intronisé patron des parachutistes, et c'est là où est employé pour la première fois à la fin de cette cérémonie. Et par Saint-Michel, vive les parachutistes. Voilà qui est l'expression qui, depuis, est reprise traditionnellement. Alors, quel est le lien tel qu'il est expliqué par ces autorités religieuses? Saint-Michel, c'est celui qui descend du ciel à la tête des milices célestes. Il représente.
On retrouve exactement ça.
Donc il y a une cohérence.
Cette terminologie.
Il représente le courage et il représente le courage au service d'un juste combat. Voilà, les parachutistes se mettent dans cette filiation. Nous sommes courageux pour mener un juste combat. Et puis j'ai trouvé aussi ça très amusant et très astucieux quand on regarde ce qui est expliqué, la parole de l'Apocalypse. Il se fit un silence dans le ciel lorsque l'archange Michel combattait le dragon. Et c'est le silence, quand le parachute s'ouvre, vous êtes dans le silence avant de tomber dans la bataille.
Ou de vous écraser.
Généralement, non.
Sur les liens avec la France, la revue Foyer Ardent en a fait sa une, là, justement, pour le mois de septembre. Et elle rappelle que, notamment, c'est Charlemagne qui a décidé de la date du 29 septembre pour la fête de Saint-Michel. On connaît tous l'apparition de Saint-Michel dans un songe à Saint-Aubert, de lui dire, donc évêque d'Avranches, de fonder une église sur le mont Tombes le 16 octobre 708. Mais avant, en 506, la reine Catherine, qui est l'épouse du roi Chilpéric, a initié une église pour la construction d'une église, donc dans le diocèse de Lyon, qui est la première église en France qui a été construite en l'honneur de Saint-Michel. Et ensuite, pour prolonger sur la question de la relation entre la France et Saint-Michel-Archange, il faut savoir que tous les rois se sont rendus au Mont-Saint-Michel jusqu'à Louis XIV. J'ai lu ça. Et puis, il y a des liens un peu particuliers, notamment en 732 avec Charles Martel, dans le combat contre les musulmans à Poitiers. Pépin le Bref, Philippe Auguste, Saint-Louis, Bayard, Anne d'Autriche. Et chacun d'entre eux, ceux que j'ai cités, ont dans leur histoire personnelle un lien particulier avec le prince de la milice céleste. Donc, c'est assez avantageux. Je crois que la France, tout de même, peut se targuer avec une certaine fierté spirituelle d'avoir un lien de prédilection avec l'archange Saint-Michel.
Un lien particulier. Ce que j'ai noté, vous parliez du débarquement et des parachutistes qui ont donc sauté sur le 6 juin 1944, donc sur la Normandie, sachant que Saint-Michel est aussi le saint patron de la Normandie.
Bien sûr.
Donc, il y avait un petit clin d'œil peut-être à travers cet événement. Saint-Michel a à nouveau fait parler de lui cette année.
Je ne vois pas où vous voulez venir.
Non
en
pas,
Normandie, mais en Vendée.
Ni en Normandie, ni en Bretagne, mais en Vendée, au Sable d'Olonne. Visiblement, puisqu'on a demandé, des laïcars ont demandé à que sa statue soit
déboulonnée.
Merci de m'aider. Ça ne s'est pas finalement passé exactement comme ça, mais visiblement, Saint-Michel dérange encore.
Là, on est quand même dans du laïcardisme ridicule. Ridicule. C'est quand même la libre pensée. La libre pensée, moi, qui suis un peu spécialiste du 19e siècle, pour moi, c'est 1890. Les sociétés de libre pensée, c'est quand même des gens qui ont un siècle de retard. N'oublions pas quand même que la République gère environ 40 000 lieux de culte, n'est-ce pas, qui lui appartiennent.
Enfin, qu'elle s'est...
Mais je veux dire, de facto, il y a 40 000 lieux de culte qui sont desservis et sous l'égide de la République française, et qu'en l'occurrence, la statue était liée à l'église devant laquelle elle était, la place sur laquelle elle était, donc église Saint-Michel, place Saint-Michel, quartier Saint-Michel. Donc, il y ait une statue de Saint-Michel, là où on parle de Saint-Michel, ça ne paraît pas complètement absurde. D'autre part, il n'y avait aucune cérémonie religieuse. Ils ont mis une statue pour... je dirais, pour illustrer le lieu. Et si on mettait une statue de Jules Ferry ou d'un abruti de footballeur quelconque, ça, c'est permis. Mais
c'est la responsabilité de vous. Voilà.
J'avais mis un autre mot, mais je l'ai corrigé. Vous voyez, je deviens meilleur. Et donc, une statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, du quartier Saint-Michel, alors là, c'est interdit.
Le jour de la Saint-Michel.
On est quand même dans le ridicule. Et la preuve du ridicule, c'est que la mairie a vendu une bande de terrain, soi-disant, pour faire une entrée handicapée, et on a mis 10 mètres plus loin à l'église et à la paroisse, et on a mis 10 mètres plus loin à la statue. On est dans le ridicule. Voilà,
Saint-Michel ne s'est pas laissé vaincre, là, pour le coup.
Il me semble que du haut du ciel, il doit quand même estimer que ce n'est pas non plus sa victoire la plus éclatante. Mais pour nous, ça nous fait quand même plaisir, évidemment.
Ça nous fait rire. Écoutez, on va terminer sur ces paroles, ce club des hommes en noir. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la doctrine entourant les archanges, les anges et spécifiquement Saint-Michel. Nous demanderons bien évidemment à Saint-Michel de nous protéger et de protéger la Sainte Église et puis de protéger notre pays. Allez, j'ose quand même, et vous ferez très vite dans vos réponses, une ultime question.
Alors moi, je n'ai pas une question, j'inviterai plutôt...
Non mais moi, c'est moi
qui... Pardon, désolé.
Si je peux la poser. Est-ce que Saint-Michel, je vais être très indiscret, a une place particulière dans votre existence ? Jean-Pierre, oui, non.
La place de Saint-Michel dans mon existence, c'est un combattant. Voilà, on se bat.
Voilà, ce qui va bien avec ce que vous êtes, effectivement. Père Danziek.
Alors, j'en profite. Donc, deux raisons. La première, c'est mon grand-père, qui est un héros du Vienne Fou, que j'ai eu la grâce, le privilège donc, de célébrer ses obsèques, justement. Voilà, le colonel Allaire aux Invalides, il y a un an et demi maintenant. Et donc, il y avait la prière du para et évidemment cette évocation de Saint-Michel qui était très forte dans l'assistance. Et j'invite, justement, par la place de Saint-Michel dans ma vie personnelle, nos téléspectateurs à lire la consécration des évêques qui a été formulé le 19 mai 1912 au Mont Saint-Michel, où ils ont consacré la France à l'archange Saint-Michel. Cette consécration solennelle, nous la voulons nationale, ont-ils dit, et nous renouvelons autant qu'il est en nous le pacte séculaire qui lie la France au prince des anges. Et je crois que c'est très stimulant pour notre combat présent.
Très rapidement, monsieur l'abbé.
Eh bien, c'est une piété personnelle pour Saint-Michel et les anges et l'ange gardien. Et d'autant plus que beaucoup de personnes me parlent et je fais le tri plus ou moins dans toute, l'effervescence actuelle de gens qui pensent avoir telle ou telle locution et révélation. Et Saint-Michel est assez présent. Donc, c'est des pieuses fraudes pour certains. Ou, par exemple, pour Garabandal, c'est quatre personnes qui disent avoir vu Saint-Michel avant la Vierge. Mais c'est les années 60. Ben, on verra bien.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé Sérigier.
Simplement, je dis chaque jour la prière à Saint-Michel à l'issue de la messe. Hein. Donc, ces prières dites les prières Léonie, ont été supprimées dans les rubriques de 1962. et la Fraternité Saint-Pilis, comme dévotion de congrégation, l'a gardé. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. Et donc, tous les jours, nous invoquons Saint-Michel, bon, en tant que protecteur de la Sainte-Église. C'est quand même ça les idées, protecteur de la Sainte-Église. Et la Sainte-Église, aujourd'hui, en a bien besoin.
Merci, merci messieurs, encore une fois, pour tous vos éclairages. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode 2 du Club des Hommes en Noir en sa saison 6. Ne manquez pas donc de vous inscrire sur le site de l'Homme Nouveau pour pouvoir visionner ou écouter gratuitement les Clubs des Hommes en Noir de cette nouvelle saison. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet avec des nouveaux membres du club. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site hommenouveau.fr.